Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Michel Suria, qui publie « Sainteté de bataille » aux éditions de L'Éclat. Son génie et sa solitude, soit sa sainteté. Au sens où Joux va parler de la sainteté de Baudelaire, Sartre de celle de Genet. Au sens où personne n'a parlé de celle de Sade, bataille exceptée, encore que jamais explicitement, de Nietzsche ou d'Artaud. Littérature et pensée, Michel Suria. De temps en temps, vous écrivez des romans, des récits. D'autres fois, ce sont des essais, des préfaces, des postfaces. Et d'autres fois encore, c'est l'éditeur qui prend la parole. On sait que depuis 1987, vous dirigez les éditions Ligne, qui est aussi le titre d'une revue. Le numéro de printemps dernier, justement, s'intitulait « Littérature et pensée ». Je dis « s'intitulait », mais j'aurais pu employer aussi bien le présent, parce que c'est un numéro qui est encore disponible et dont les textes ne sont pas liés à une actualité immédiate. Hein. En fait, le générique de la revue, c'est « art, littérature, philosophie, politique ». Le prochain numéro qui est annoncé sera, lui, un peu plus lié à l'actualité, puisqu'il a pour titre « Le devenir grec de l'Europe néolibérale ». C'est le numéro 39. Apparaître quand ?
Ce mois-ci, d'ici quelques jours.
Et c'est un numéro qui va traiter de ce qu'on appelle communément, on entend beaucoup parler, sur les chaînes de télévision, à la radio, dans les journaux, la crise de la dette. Et la crise de la dette, ça donne à penser.
La dette symbolique, non, la dette réelle. Comment faire l'écart? Je ne sais pas comment répondre à votre question, parce que le numéro de Ligne qui vient est un numéro, en effet, aux yeux de beaucoup, très différent de celui qui le précède. Il y a autant de différences possibles entre littérature et pensée, numéro 38 de Ligne, et puis le devenir grec de l'Europe néolibérale, le numéro 39. Il semble qu'il y a autant d'écarts que possible, et pas à mes yeux. Et d'ailleurs, j'en voudrais pour exemple, mais il ne sera éloquent qu'à la condition qu'on ait feuilleté, au moins un peu élu, nouveau numéro qui vient, c'est que j'ai mis en tête de ce numéro un texte de Claude Calame, qui n'est pas connu pour être un politique, qui est un helléniste, et ce numéro est le plus éclairant ce texte est le plus éclairant que j'ai pu lire sur la situation globale de l'Europe, et donc de la dette ou de la crise, tous les mots qu'on peut employer. Donc à chaque fois, je m'efforce de faire que la littérature, la pensée et la politique ne soient pas si disjoints qu'ils sont ou qu'ils semblent. Et ce n'est pas à chaque fois possible. J'ai, c'est vrai, une prédilection particulière pour le numéro littérature et pensée. S'il n'était que moi, j'intriquerais davantage le mélange, les parts respectives dues à la littérature, à l'art, à la pensée, à l'art qui est très... Je peux le faire en forme d'autocritique, à l'art qui est très absent de Ligne, à l'histoire de l'art, à l'actualité de l'art, à la pensée de l'art qui est très absent de Ligne, qui sont très absents de Ligne. Bon, c'est ainsi. J'ai toujours pensé que, ça fait maintenant 25 ans que la revue existe, j'ai toujours pensé que la revue décidait pour beaucoup par elle-même. Et que j'étais en partie responsable du tour que prenait chaque numéro, en partie non. Pour une part, que c'est l'actualité qui en décide, mais pour une autre part, c'est tous ceux à qui je la délègue, à tous ceux que j'y invite, tous ceux à qui je fais confiance, qui en décident. Et c'est à chaque fois pour moi une surprise. Dans 9 cas sur 10, très agréable sur ce numéro, qui pourrait sembler archi-politique. Et il y a pour la première fois d'ailleurs dans l'île des économistes dedans. Voilà une chose qu'on n'avait jamais encore inventoriée. Bon, il y a des économistes. Eh bien, j'ai appris beaucoup d'eux en le lisant et je me dis que si j'apprends beaucoup d'eux, je ne serai sans doute pas le seul à le faire. Bon, mais il y a aussi des textes de Balibar, des textes de Badiou, il y a des textes plus amples, plus philosophiques. Il y a des textes de gens qui, pour beaucoup, le numéro a été fait en grande partie par Vicky Scumbi. Ce sont des gens que la littérature intéresse de très près. Il y a des textes, un texte de Dimitris Vergétis, et c'est un psychanalyste aussi. Donc c'est ce mélange-là est jamais absent. Je crois qu'on est nombreux à ne pas les dissocier intimement. Simplement, il est difficile, extérieurement, publiquement, de dire, par exemple, c'est en tant que psychanalyste et citoyen que j'interviens là. Non, on intervient en tant que politique, mais c'est une tromperie. Je veux dire, personne n'est politique en cela. Nul n'a d'autorité à intervenir sur un tel sujet, sinon cette autorité que nous confère la citoyenneté et qui nous est dévolue à tous et dont on ne s'empare pas assez.
Est-ce qu'une revue comme Ligne, qui prend le temps de la réflexion, a dû revoir la conception de son rôle avec l'emprise du direct aujourd'hui, du temps réel?
C'est une question très difficile. Je trouve bizarrement qu'elle... Je me suis, moi, davantage posé la question au début de Ligne que maintenant. Le début de Ligne correspond à l'accélération de ces processus de diffusion des informations. Et il y a pu arriver, mais dans les toutes premières années, 5-6, que nous nous trouvions gênés par la lenteur de la réaction que nous pouvions opposer aux faits. Et ce n'est plus arrivé depuis. Je ne sais pas par quel phénomène de compensation ou d'équilibre qui s'est établi de lui-même. Il nous est apparu que cette accélération, sans doute, de l'information et de l'actualité était une précipitation, et que le temps dans lequel nous agissions était celui dans lequel la pensée pouvait s'installer, pour au moins se produire.
Alors, si j'avais un tant soit peu le sens des enchaînements, Michel Soria, je vous ferai remarquer que de la crise de la dette, on peut passer facilement au livre dont vous venez nous parler ce soir, Sainteté de Bataille, en nous rappelant que Bataille est l'auteur d'un long article intitulé « La notion de dépense » qu'il avait publié en janvier 1933, dans la revue de Boris Souvarine, La Critique Sociale. Et cet article, vous l'avez précisément réédité aux éditions Ligne, pas plus tard que l'année dernière, avec une postface de Francis Marmande, quand celui-ci publiait également un volume sur Bataille, Le pur bonheur. Georges Bataille, à ces mêmes éditions Ligne, il était du reste venu nous en parler à ce micro dans Du jour au lendemain. La notion de dépense renvoyait au potlatch de Marcel Mauss, c'est-à-dire moins à la dette qu'au don.
C'est ce qui fait l'incroyable, étonnante actualité de l'œuvre de Bataille et l'actualité de textes qui datent effectivement de l'entre-deux-guerres des années 30. Certainement, le mot dette est un mot qui est peu compréhensible par Bataille. Le mot dépense, qu'il emprunte effectivement à Mauss, et dont il fait un usage comme très personnel, et qu'il syncrétise de façon très bataillienne, l'un des maîtres mots de Bataille. Et toute la pensée de Bataille pourrait être... Oui, j'avais pas... Je suis tout à fait conscient des raisons pour lesquelles je republie ces textes-là. Pourquoi je demande à des amis comme Francis Marmande de les préfacer ou à quelques autres, c'est que je me dis que ces textes sont actifs, ils sont virulents. Ils maintiennent une sorte de degré d'acidité ou de virulence intact. Donc je souhaite que d'autres les lisent, qui ne les auraient pas lus parce que ce sont des petits textes et ceux-ci, dans les œuvres complètes, sont mal visibles et la plupart du temps inconnus. Bon, je mesure bien qu'ils le sont. Actif, acide, virulent, viraux, comme aurait dit Baudrillard, mais je ne sais pas dans quelle mesure et à quel point. Et ce sont les faits qui donnent a posteriori raison à cette intuition. Il n'y a rien comme ce que Bataille a pensé au titre de la dépense improductive et qui ne puisse être détesté par le monde dans lequel nous vivons. Je dirais,
d'ailleurs, c'est agences de notation qu'il a repris lui-même en 1949 sous un autre titre.
Grand article, enfin qu'il a grandement...
Qui est devenu un livre.
Voilà, qui est devenu un grand livre en plus de Bataille, La part maudite. L'un de ses maîtres livres, pas le plus connu de ses livres, l'un de ceux qui devait inaugurer un cycle qu'il a poursuivi qu'un cas sans l'achever vraiment, c'est compliqué, mais enfin, bon, son ambition était considérable en constituant cet ensemble. Et on voit par là que c'est une constante de son existence. Il s'agissait pour lui de penser quelque chose comme une économie générale. Et donc, une économie générale, autrement dit, une histoire universelle. Mmh. Cette histoire universelle est exactement le contraire de celle que les régimes, que les agences de notation, que les parlements, que les gouvernements aujourd'hui édictent. C'est l'absolu contraire. Alors, en cela, il est incroyablement utile, pertinent. Bon. Mais est-il aussi compréhensible tant la différence est grande? C'est une question que je me pose en vous écoutant me dire cela. Je me dis, est-ce qu'on peut aujourd'hui voir comment le retournement est tel? Est-il compréhensible? Est-il interprétable? J'imagine que oui, mais c'est pas si sûr.
Et est-ce qu'on peut lire la part maudite en faisant abstraction des deux autres moments du cycle auquel vous faisiez allusion, c'est-à-dire la souveraineté que vous avez repris d'ailleurs, je crois, aux éditions Ligne, et le troisième volume qui est l'érotisme.
On peut les lire séparément. J'insiste dans la préface à l'homme à la sainteté de Bataille sur ce paradoxe apparent qui consiste à dire Bataille n'est pas un penseur aussi anti-systématique ou asystématique qu'on le pense, qu'on veut le penser peut-être aussi, et qu'on le lit nécessairement puisque le temps lui en a pas été laissé. Dans les années 50, il avait certes l'ambition, et une ambition sans doute d'ailleurs considérable, de constituer quelque chose comme une somme et comme une systématicité. Il en a presque le naïf désir tout en lui et témoigne d'une anti-philosophie. Et essentiellement, je le lis comme tel, moi-même, et c'est ce que sans doute je préfère chez lui, mais quelque chose en lui proteste contre et veut se constituer en philosophie ou en philosophe aussi.
Est-ce qu'on peut dire que ce livre qui paraît aujourd'hui aux éditions de l'Éclat, Sainteté de Bataille, est à sa façon lui aussi une somme après l'autre livre que vous avez consacré à Bataille, Georges Bataille, La mort à l'œuvre, une biographie en fait, qui reparaît d'ailleurs chez Gallimard dans la collection Tell.
Je ne sais pas comment l'appeler. J'ai eu le sentiment qu'il fallait que je fasse le point 25 ans après. Il se trouve que c'était... Enfin, 25 ans, pas exactement, puisqu'il y a des textes que j'écris au fur et à mesure de ces rééditions que j'entreprenais aux éditions Ligne. Mais au fur et à mesure, j'ai vu se constituer quelque chose que je cherchais à constituer, et qui était de constituer des môles théoriques que j'avais dû, par la force des choses, dans une biographie, fut-elle assez peu académique, fut-elle plus intellectuelle qu'anecdotique, malgré tout, j'avais dû négliger autant de choses qui me paraissaient essentielles. Des textes comme, par exemple, La structure psychologique du fascisme, qui est juste par an de la même année que celui dont vous citiez La notion de dépense. D'autres textes encore très étranges qui me laissaient dans l'expectative, comme par exemple La discussion sur le péché en 44, en pleine guerre en France, énigme de cette rencontre de Sartre, Bataille, Danielou, Klossowski, etc. Étrange moment. Donc je voulais revenir sur ces points-là. Je voulais aussi corriger des choses ou compléter des choses parce que depuis entre-temps avait paru des éléments biographiques, intellectuels, théoriques, des textes qui me permettaient d'en voir, d'en savoir davantage. Et essentiellement, c'était aussi ça qui me motivait au sujet d'Acéphale et de la communauté. Mais pas seulement. J'avais moi-même établi la correspondance en 97. Et cette correspondance-là m'avait fait apercevoir des choses que j'ignorais au moment où j'ai fait ce qu'on appelle une biographie. Donc j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui vienne 25 ans plus tard dire où j'en étais de ça, et sans doute aussi pour en finir avec ça, c'est-à-dire pour ne pas avoir à continuer de revenir. J'ai fait beaucoup d'autres choses entre-temps, et je me suis intéressé à beaucoup d'autres écrivains entre-temps. Je n'ai pas de monomanie de bataille, mais je pensais que je ne le ferais jamais. J'ai toujours pensé que je ne reviendrais jamais. Quelque chose me fait horreur dans l'idée d'être le spécialiste de quelque chose, même si on n'est que quelques-uns de spécialistes, c'est quand même quelque chose d'assez horrifiant. Donc je ne voulais pas refaire ça. Et puis, c'est au fur et à mesure, en me repassionnant pour tel ou tel texte de lui sur lequel je revenais, par le fait ou la grâce de quelques sollicitations, commandes, conférences, etc., je me suis mis à voir que ce pouvait se constituer, à mes yeux même, une figure un peu corrigée du bataille que j'avais produit dans la biographie.
Alors ce soir, Michel Suria, vous êtes venu nous apporter une mauvaise nouvelle. Bataille, c'est fini. Jamais plus.
Non, c'est impossible, mais il y en a bien d'autres qui travaillent magnifiquement là-dessus maintenant, qui ont l'âge pour ça. Mais oui, c'est pas... Sinon, ça n'aurait pas grand sens de continuer, évidemment. Et puis, je préférais parler de Kafka, de Nietzsche ou de Pascal, qui pour lesquels j'ai au moins autant de passion, sinon même davantage. C'est pas... C'est vraiment la chance, le premier bataille, puis ce qui s'est fait ensuite, c'est vraiment la chance. Mais c'est une chance qui nous a été donnée à une génération qui est la nôtre. C'est la chance qui a voulu, qui a sa malchance à lui, sa disgrâce à lui, que ses contemporains ne se soient pas du tout avisés de l'importance, de l'ampleur, la dimension de cette œuvre, 12 volumes des œuvres complètes. Personne n'imaginait ça. Et c'est de l'importance. Je rappelle assez facilement et assez volontiers que combien il est mort dans l'indifférence, quasiment. Il suffit de regarder la presse des jours de sa mort. Enfin, c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut imaginer des morts d'Albert Camus ou de Jean-Paul Sartre. Enfin, voilà, sans espèce d'aucune commune mesure. Et pourtant, c'est... On n'imagine plus de les séparer maintenant. De les séparer, je veux dire, en importance, en histoire, etc., en généalogie, en filiation. Bon, et donc à la génération qui est venue après, il a appartenu de faire valoir ça. Alors les premiers, je le raconte dans la préface, parce qu'il me semblait important de faire le compte de ça. Et il y a des philosophes, c'est Foucault, c'est Derrida, qui les premiers s'avisent de cette importance considérable, y compris pour la philosophie, chose qui était doublement ignorée à sa mort. Mais c'est aussi les poètes, je veux dire, ou tel quel, qui a su, dès le début, voir un bataille, pas tout bataille, mais un bataille essentiel. C'est Bernard Noël, c'est des tas de gens, c'est Christian Prigent, c'est des tas de gens. Et tout ça s'est articulé, mais lentement. Et depuis 20 ans, il y a une véritable fortune critique de bataille. Elle n'est pas niable, elle appartient à énormément de gens. Je n'y occupe qu'une place que la chance a servi, c'est vrai. En faisant le livre il y a 25 ans biographique, la chance m'a servi, mais des travaux universitaires sont innombrables maintenant. Ouais. Les traductions à l'étranger sont innombrables aussi. C'est très, très étonnant aussi.
C'est pas mauvais signe, ça.
C'est un. J'entends le paradoxe. Je pense que ce n'est pas encore un mauvais signe parce que le malentendu persiste.
Ouais. Mais quand je disais « bataille, c'est fini », je vous tendais peut-être une perche pour nous parler de l'usure de la passion. À force de lire et relire « bataille », est-ce que vous ne constatez pas cette usure qui signifierait en même temps que cette pensée-là a perdu ses effets?
Il faudrait supposer que c'est sur moi seulement qu'elle aurait perdu de ses effets.
Mais pour nous, peut-être.
C'est possible.
Pour la génération actuelle.
Que l'éclat... Prigent le dit bizarrement et très fortement dans le numéro 1 des cahiers Georges Bataille. Il y a un entretien avec lui qui est vraiment passionnant, d'ailleurs. Et il dit combien ça a compté pour lui et combien ça ne compte plus pour lui. Ça, je vois très bien comment, effectivement, le détachement peut s'effectuer. Le passionnement chez moi n'est pas la règle pour ça, enfin, je veux dire pour cette œuvre, ni même l'émotion, c'est pas l'œuvre qui m'émeut ni me passionne le plus. Nietzsche et Kafka, par exemple, ont sur moi un empire bien plus considérable.
Et pourtant, vous avez consacré beaucoup de temps à lire et à écrire sur Bataille.
Pas de temps, que ça. C'est ça que... Non, non, non. Je le dis quelquefois, mais la biographie de Bataille, j'ai mis 6 mois à lire tout et j'ai 6 mois à écrire tout. Et ça a été fini. En un an, c'était fait. Et je n'ai rien fait depuis que de temps en temps, mais rarement, un texte ou l'autre... qui aujourd'hui sont rassemblés. C'est pas vrai, d'ailleurs, c'est pas un livre qui rassemble des textes. Il y a la moitié de textes qui sont des textes un petit peu anciens, qui ont quelques années, et puis la moitié des textes inédits, qui ont été écrits là véritablement pour former un livre et refermer un tout. Non, non, le passionnement pour moi n'est pas la chose qui fait que Bataille. Je crois que ce qui a pu, pour répondre à votre question qui est compliquée, je crois que ce qui a pu perdre de son éclat, c'est le scandale, ou c'est le scandale immédiat. Alors, disons-le, le scandale sexuel, des récits érotiques, ça peut effectivement avoir perdu de l'éclat qu'on lui a prêté dans les premières lectures après sa mort, dans les années 60, même encore un peu 70. Mais je crois que le caractère de dérangement que constitue Bataille, par exemple, dans l'articulation littérature et pensée dont nous parlions pour commencer, reste très grand. Et je pense que les savoirs, les genres tels qu'ils se constituent dans la littérature, la pensée, la philosophie actuellement, à l'université, mais aussi dans la librairie, chez les éditeurs, cette façon de régler les parts dues à chacune, ça, Bataille les trouble encore beaucoup. Donc je suis peut-être plus sensible à la stimulation que Bataille imprime dans cette espèce de... dans ce qui a toujours été mon désir de faire que les genres s'estompodisaient, vous disiez tout à l'heure, des romans d'un côté, des essais de l'autre, etc. S'il était possible que ce ne soit plus dit dans ces termes-là, s'il était possible que nous soyons d'accord que poésie, ou littérature critique de la poésie, philosophie, pensée, roman, chez moi la définition du roman est immense, bon, sont des genres, sont la même chose, c'est le travail d'écriture dans lequel nous sommes. Tout à l'heure, nous parlions de Bernard Noël. La critique de la peinture chez lui est, je crois, absolument indissociablement liée à sa littérature en général. Et un jour, on s'en avisera quand on réunira ses textes, quand on réunira ses œuvres sur la peinture, on s'apercevra que ça en fait partie de façon intégrante. Je crois vraiment que c'est peut-être en cela que la leçon de Bataille est la plus opportune pour nous encore.
Donc il faut le lire. Pour écrire.
Ah, ça, je pense. Il y a un véritable effet de stimulation, oui. Et ne pas refaire avoir des critiques éditoriales, mais refaire ce que, par exemple, Gallimard a fait en faisant un Pléiade, publiant les romans, ou la littérature, ils ont appelé ça roman. Ça, c'est une bêtise. Évidemment, Bataille disait, il faut lire Madame Edwarda en regard de l'expérience intérieure. Là, un texte dit théorique, un essai, comme selon les gens dont on est généralement convenu, et là, un texte pornographique, l'un des plus beaux qui soit, dont je suis pas sûr que le caractère de scandale ne persiste quand même pas un peu. Et là, il y a véritablement un bénéfice. Si on se remet à dire de côté le roman, de l'autre, enfin, ou le roman ou la littérature, de l'autre côté, et la poésie, de l'autre côté, l'essai, la critique. Non, tout le travail de ces 30 dernières années serait perdu. Ce qui se passe, d'ailleurs, on le voit bien, hein, mais c'est regrettable. Ce n'est pas une raison pour ne pas lutter contre. Il faut continuer de lutter contre.
Mais comment le lire, Bataille, si on met de côté la Pléiade, parce que les œuvres complètes, on les trouve pas dans beaucoup de librairies, même
les Pléiades non plus,
même les meilleures.
Les Pléiades non plus, on les trouve
pas beaucoup de très pas beaucoup d'éditions de poche.
Très peu. Mais oui, mais c'est la même chose, c'est la même disgrâce que celle de Blanchot. Enfin, c'est il y a pas d'œuvre complète de Blanchot. L'éditeur a toujours refusé d'en faire. Il y a pas de Pléiade Blanchot. Il y a des livres ici et là. Ou en blanche, mais elle ne se trouve pas facilement, évidemment, et, ou en poche, mais pas tant que ça. Comment constituer une œuvre en tant que... Ça, c'est une vraie question. C'est une question d'éditeur, d'ailleurs. C'est comment faire, comment fait-on avec l'œuvre de Benjamin, qui est totalement dispersée, qui nous arrive chez autant d'éditeurs que possible. Rien ne l'organise en tant que tel. Qui, un jour, entreprendra ce travail colossal, mais indispensable, d'une édition concertée et complète de l'œuvre de Benjamin. Ce sont des questions, mais on ne verra Benjamin qu'à la condition que cet établissement ait été effectué. Ça, c'est une chose évidente. Comme pour Bataille, c'est la chance des années 70, des grands éditeurs étaient encore assez volontaires et ambitieux pour produire une œuvre complète. Mmh. À ceci près, quand même, que quand ils ont commencé l'édition de l'œuvre complète de Bataille, ils pensaient que ça constituerait 3 volumes. puis ils s'en sont aperçus que ça en ferait 6, et puis ensuite ils s'en sont arrêtés à 12, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'ils avaient su que ça devait leur coûter 12 volumes.
Un projet comme celui-ci, aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y aurait pas de grand éditeur pour le faire ?
C'est tout à fait impossible. Ces choses-là sont inimaginables maintenant, pour des raisons d'ailleurs triviales, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lecteurs pour ça. Plus assez, je veux dire, c'est une question de commerce, de livres, c'est un commerce pur et simple. Il n'y a plus de lecteurs en assez grand nombre pour ça. Bataille est sans doute cette valeur qu'on disait tout à l'heure, je mets des guillemets au mot valeur, mais ce n'est toujours pas une valeur commerciale. Ouais. Ça, c'est une chose évidente aussi.
Mais si... un petit éditeur comme Ligne voulait tout d'un coup publier les œuvres complètes de Georges Bataille, il aurait peut-être des problèmes avec Gallimard pour pouvoir le faire.
Ben, les ayants droit sont représentés par les éditions Gallimard, lesquelles effectivement prélèvent le dû d'un droit d'auteur. C'est... dans l'hypothèse, elle ne se présente pas puisque les œuvres complètes existent de Bataille. Donc ça, c'est une chose que, au moins qui peut nous satisfaire. Ce serait les œuvres complètes de Blanchot qu'il faudrait pouvoir obtenir. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça, c'est une chose certaine.
Éditeur, encore un effort.
Pour être éditeur.
Alors peut-être qu'on ne peut plus lire Bataille dans le texte, mais on peut lire des livres sur Bataille. Le vôtre, par exemple, Michel Suria, Sainteté de Bataille. Vous disiez que vous aviez repris un certain nombre de textes dispersés et ajouté des inédits. Mais qu'est-ce qui préside à l'organisation d'un tel volume ?
L'idée de faire le point, ça je l'ai dit tout à l'heure, de faire le point avec ce que j'en savais ou croyais en savoir. Ça, c'est une chose... Et l'idée de corriger quelque chose, de le corriger parce que j'avais moi-même écrit des choses erronées dans la biographie, et ça tourne autour de l'entreprise, expérience d'Acéphale, pour une part.
Ces choses erronées, vous les avez corrigées dans la réédition de Tell ?
J'ai effectivement, oui. J'ai rien développé, mais supprimé. Renvoyant pas, mais faisant en sorte qu'on se renverrait soi-même à la lecture de l'autre comme complément. Oui, c'était il y avait très peu de choses erronées, c'était factuel. Mais il y avait surtout une interprétation de la communauté, disons-le, qui devait beaucoup à l'interprétation que Blanchot lui-même en avait imposée dans la communauté inavouable. Et au fur et à mesure que le temps a passé depuis, que j'ai établi la correspondance de Bataille, comparu les sources considérables et passionnantes qu'a publiées une chercheuse italienne qui s'appelle Marina Galetti aux éditions de la Différence sous le titre de l'apprenti sorcier, là, l'énigme essentielle d'Acéphale ne se dissipe pas, mais les circonstances, l'enjeu, l'ampleur, les protagonistes, etc., tout cela s'éclaircit. On voit, et ce que j'ai pu mesurer, c'est que cette entreprise était bien plus considérable, bien plus ambitieuse, bien plus folle, monstrueuse, a dit lui-même Bataille. Je crois qu'il n'est pas loin du mot, pas loin du compte en disant que c'était une entreprise monstrueuse. Et là, il me fallait à la fois donc renverser ce que Acéphale et Bataille avaient engagé de tragique. C'est capital, c'est vraiment l'immédiate avant-guerre. Et c'est la conséquence de tout ce que Bataille a pensé dans les années 30 au sujet de la montée du nazisme, du fascisme italien, du nazisme allemand et du totalitarisme soviétique sur lequel Souvarine l'alerte tout de suite et sur lequel il n'est pas moins sévère, je veux dire, enfin, le mot n'est pas juste, pas moins, qu'il ne voit pas moins gravement et grandement qu'il ne voit le fascisme et le nazisme. Mais il s'embarque dans cette entreprise qui est Acéphale, qui restait une énigme pour moi. Là, tout d'un coup, elle ne l'est plus tant. Je me dois de réécrire ce que j'avais écrit là, car au total, c'est la seule chose qui me paraissait profondément erronée. Pas en fait, hein, mais en mesure, en importance, en interprétation. Et je mesure aussi que l'interprétation qui prévalait, qui est celle essentiellement de Maurice Blanchot dans la communauté d'Avoible, devient pour moi plus recevable du tout. J'en mesure même quelque chose, j'y mesure même quelque chose de faux. Et puis je m'irrite, c'est l'autre injonction, je m'irrite du cas qui est fait de cette interprétation et qui prévaut partout, notamment les travaux universitaires qu'on me montre, que je reçois, qu'on m'envoie. Et je me dis tout à coup, là, il y a un rectificatif à faire. Non, pas pour nuire à Blanchot, si peu que ce soit, enfin, c'est pas mon souci. J'ai aussi par ailleurs beaucoup d'admiration pour certains de ses livres. Non, pour simplement remontrer comment et Bataille et Blanchot ne sont pas les mêmes. Leurs pensées et leurs œuvres ne sont pas les mêmes. Cette gémellité qu'on a constituée a posteriori est en grande partie fausse, même peut-être un peu irréelle, douceâtre. Et que je ne suivrai pas, et j'aimerais bien qu'on ne suive pas, l'application des thèmes de Lévinas, la superposition des thèmes de Lévinas empruntés par Blanchot sur l'expérience de la communauté d'acéphale chez Bataille. Là, il y a quelque chose qui ne convient pas. Il y a presque une opération intellectuelle. J'ai peur des mots qui... Non, des mots excessifs. Pas malhonnête, parce que je ne pense pas que ce soit conscient. Mais en tout cas, pas exact, voilà, inexact. Et donc j'ai voulu rétablir cela. C'est au prix d'une certaine querelle avec cette interprétation de Blanchot, dont j'imagine que les Blanchotiens l'apprendront plus ou moins bien, mais qu'il fallait faire, ne serait-ce que pour que... Et que Blanchot soit celui qu'il est, et que Bataille soit celui qu'il a été, mais sans superposition, sans gémellisation de leurs deux figures. La généalogie Bataille en est une tout autre que celle de Blanchot. Je préfère que les choses soient redites. Il fallait que quelqu'un les dise. Jean-Luc Nancy n'était pas loin de les dire, les avait dites déjà sans trop les dire. Il y a un certain embarras qui existe en France au sujet de la mémoire de Maurice Blanchot. Voilà, il fallait que quelqu'un vienne et dise un peu brutalement, je l'ai fait plus ou moins brutalement, c'est pas trop brutal, mais ça le mérite, je pense, de clarifier la situation.
Sainteté de Bataille, l'essai de Michel Suria est publié aux éditions de L'Éclat. Et puis, je rappelle la réédition dans la collection Tell chez Gallimard de Georges Bataille, La mort à l'œuvre. Nous avons parlé également du tout dernier numéro de la revue Ligne, le numéro 39, intitulé « Le devenir grec de l'Europe néolibérale ». Au lendemain, Pierre Mine, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Winstein. Bonsoir.